13h30. Bonjour Jean Lebrun.
Un autre écrivain, bonjour Yves, qui a rué constamment dans les brancards au point de se faire le procureur du journalisme, l'Autrichien Karl Kraus.
Der ist schon ein Gedicht, das nur handelt von Pflicht, denn stets Wert und Gewicht leg ich nur auf die Pflicht.
Karl Kraus, réquisitoire contre le journalisme.
Les faits les plus invraisemblables exposés ici se sont véritablement produits. Les conversations les plus invraisemblables menées ici ont été tenues mot pour mot. Les inventions les plus brutales sont des citations. Personne ne doit considérer tout cela comme une affaire locale. Que ceux qui ont les nerfs fragiles quittent la salle.
C'est à Vienne où il notait tout ce qu'il entendait, qu'il a vécu pour l'essentiel. Il était de Vienne une figure charismatique. Die Fackel, la torche ou le flambeau, c'est selon sa publication à couverture rouge vif qu'il rédigea quasi seul 35 ans durant, était attendu et redouté, comme ses lectures publiques, parce qu'il faisait aussi du live. Il a publié des dizaines de milliers de pages fébriles des dernières années de l'Empire austro-hongrois à sa mort en 1936, à la veille de l'Anschluss. Il traquait les soi-disant fabricants d'informations qui étaient en réalité les serviteurs d'intérêts qu'ignoraient ceux qui les lisaient ou les écoutaient. « Je m'adresse sans illusion, disait-il, aux imbéciles de mon temps, mais aussi aux imbéciles à venir. » Et en effet, ces avertissements résonnent furieusement à notre époque. Chacun peut publier sur le net quand il veut, comme dit Fackel. Des textes de la longueur qu'il veut, comme dit Fackel. Ce que Kraus redoute le plus, le formatage, demeure néanmoins dans l'univers numérique. Les réseaux sociaux, par exemple, sont contraignants. La langue y est souvent martyrisée. La vérité aussi. Il faut l'entendre aujourd'hui. Kraus était persuadé que ceux qui prétendent diffuser l'information effectuent en réalité un travail de termite qui aboutit à la décomposition de la vérité.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Jacques Le Rider. Bonjour Jacques Le Rider.
Bonjour.
Vous tournez depuis longtemps autour de l'œuvre de Karl Kraus, Les Juifs viennois à la Belle Époque, c'est un de vos livres. Et puis chez Hermann, tout récemment, La Censure à l'œuvre. Enfin, on en parlera longuement de ce livre. On peut d'ores et déjà dire que Karl Kraus était un journaliste qui préférait l'époque de la censure à l'époque d'après la censure. Un paradoxe. Et il y en aura beaucoup dans cette émission. Il est né en 1874. Dans les années 1890, il aurait pu devenir un pilier de café, un de ces littérateurs viennois, comme il y en a souvent.
Il avait tout le talent pour devenir un écrivain à la mode. Il avait toute l'expérience et le savoir-faire pour devenir un chroniqueur apprécié par les meilleures rédactions.
Qu'est-ce que c'est une chronique à Vienne à l'époque ?
Alors, on appelle ça le feuilleton. C'est un mot, un gallicisme qui désigne l'article publié en première page du journal, qui est un essai à ambition littéraire, voire philosophique, qui prend ses distances avec l'actualité et qui fait un peu de morale, un peu d'esthétique, qui commente de manière enlevée, élégante, aphoristique, aussi distrayante que possible et qui est un produit d'appel pour le journal.
Et ceci se prépare, Jacques Le Rider, dans l'univers des cafés que vous connaissez bien et qu'on voit ici décrit dans deux lectures. La première lecture est dite par Claude Dominique, la seconde est de Stéphane Zweig.
On vivait bien, on menait une vie facile et insouciante dans cette vieille ville de Vienne. Et les Allemands du Nord regardaient avec un peu de dédain et aussi de dépit leurs voisins danubiens, qui au lieu de se montrer fermes et appliqués, rigides observateurs de l'ordre, se laissaient vivre en bons jouisseurs, mangeaient bien, prenaient du plaisir aux fêtes et au théâtre, et avec cela faisaient d'excellentes musiques.
Il faut savoir qu'à Vienne, les cafés constituaient une institution d'un genre particulier et qui ne peut être comparé à aucune autre dans le monde entier. C'était des espèces de clubs démocratiques accessibles à tous pour le prix modique d'une tasse de café. Et où chaque hôte pouvait demeurer pendant des heures, discuter, écrire, jouer aux cartes, recevoir sa correspondance et surtout absorber le contenu d'un nombre illimité de journaux et de revues. Rien n'a peut-être contribué davantage à la mobilité intellectuelle et à l'orientation internationale de l'Autrichien que cette facilité qu'il avait de se documenter amplement au café sur tous les événements mondiaux et de les discuter dans un cercle d'amis.
Ça, c'est Zweig qui dit ça. Zweig qui ne trouve pas Karl Kraus très sympathique parce que Kraus a secoué le café, le cocotier, il a donné des coups de poing à l'estomac de la littérature et il a rompu avec cet avenir.
Oui, il a rompu d'ailleurs avec Zweig lui-même, contre qui il est très très méchant. En fait, il est un bon représentant de cette culture des intellectuels de café, mais il est en même temps un anti-journaliste, anti-café, parce que il change de café à chaque fois qu'on sait que Karl Kraus vient régulièrement, parce qu'il ne veut pas être dérangé quand il va au café. C'est pas pour se montrer, c'est pas pour bavarder avec le tout venant. C'est d'abord pour lire la presse, qui est pour lui un aliment important de son travail de création, puisque la satire de la presse est pour lui le sujet fondamental. Et puis, c'est aussi pour rencontrer ses proches, ses collaborateurs, ses vrais amis. Et ce qui est intéressant avec Karl Kraus, c'est qu'il change de café à chaque fois qu'il se sent menacé par les intrus et par les curieux.
Alors, ses collaborateurs, enfin, il écrit Die Fackel presque seul. C'est une publication où il n'y a pas de publicité. Jamais de publicité.
Jamais.
Hein, on va pas diluer l'information dans la publicité.
Jamais. Il avait le gros avantage d'avoir hérité de son père une fortune qui lui permettait de financer sa revue qui, d'ailleurs, pendant de longues années, a très bien marché, a été très bien vendue et qui lui a permis d'équilibrer ses comptes et même plus.
Le papa, il vendait des sacs en papier.
C'est assez paradoxal. Le papa était un industriel de la papeterie et de l'encre.
Alors c'est un censeur, dites-vous dans votre livre chez Hermann, mais d'abord au sens de celui qui note, enfin, qui relève ce qu'il y a dans la presse et qui essaye de mettre en contradiction d'ailleurs la presse avec ce qu'elle dit. Il y a beaucoup de propos dans Die Fackel sur l'avortement, l'homosexualité, la prostitution. Alors voilà un exemple en 1908.
Dans une maison de plaisir vivait une fille exerçant la prostitution de manière licite et qui, jusque-là, n'avait jamais fait preuve de décence. Voilà que le démon s'empare de cette fille, jusque-là irréprochable, et un soir, on la voit arpenter le salon du lupanar, la croix d'honneur du jubilé militaire, sur la poitrine. Tiens ! Et quand une fille de joie excite l'indignation des clients d'une maison de plaisir, il est plus que temps pour le parquet d'intervenir. La jeune fille se vit effectivement inculpée d'avoir causé une excitation qui ne lui était pas licite de susciter. Le premier juge qui traita l'affaire la quitta, considérant que la croix d'honneur du jubilé n'était pas une vraie décoration et que l'esclandre était du seul ressort de la police. Certes, c'est une lapalissade que de remarquer que le port illicite d'une décoration, si elle peut entraîner la condamnation d'un journaliste, n'entraîne jamais celle d'une prostituée. Mais à Wiener Neustadt, il semblerait que les mouvements féministes aient fait de tels progrès que l'on mette là-bas les deux sexes sur le même pied en matière d'usurpation de décoration. Quoi qu'il en soit, déclara le premier juge, la croix d'honneur du jubilé militaire n'est pas une décoration. Le procureur ne fut pas du même avis, il fit appel, et la cour de cassation condamna l'accusé à une amende de 20 couronnes. Le tribunal déclara que la croix d'honneur du jubilé militaire était une distinction honorifique au même titre que toutes les autres décorations. Et il cita comme circonstance particulièrement aggravante le fait que la croix avait été portée dans une maison de plaisir. Lorsqu'on demanda à l'accusé ce qui lui était passé par la tête à ce moment-là, elle répondit « rien ». Mais cette fois-ci, la réponse ne fut d'aucun secours, car s'il est permis à une fille honnête de se prévaloir d'exercer la prostitution, il n'est pas permis à une prostituée de se prévaloir de la croix d'honneur.
En réalité, Jacques Le Rider, Karl Kraus met la fille publique, d'un point de vue éthique, hein, plutôt au-dessus de l'éditorialiste, puisque la grande prostituée.
La grande prostituée, c'est la presse. C'est la presse soumise aux intérêts industriels et économiques et financiers, aux pressions politiques et aux bons usages dans le milieu littéraire, dans le milieu des théâtres.
Exemple, un critique de théâtre dont toutes les critiques sont positives, il faut y regarder de près parce que il cherche peut-être à être joué voilà. Dans un théâtre.
À Vienne, à l'époque, pour être un auteur souvent à l'affiche des bonnes maisons, il faut être titulaire de la chronique théâtrale d'un grand quotidien. À ce moment-là, on met sous pression les directeurs de théâtre qui, en quelque sorte, accordent une sorte de droit d'entrée à ce critique théâtral tous les 18 mois aura le droit de produire une comédie ou un drame historique dans le théâtre dont il vante les pièces dans le journal dont il est le salarié.
Mais dites-moi, puisque vous parlez des théâtres, il va tout de même pas défendre la censure préventive telle qu'elle a existé plus longtemps qu'en France, à Vienne, des pièces. Non plus qu'il ne va défendre la censure dans les journaux.
Il ne défend pas la censure de l'époque de Metternich, bien sûr, mais il montre que la prétendue liberté des théâtres, la prétendue liberté de la presse est un leurre. Car en réalité, on a libéré seulement l'industrie du spectacle et l'industrie de la presse. C'est la liberté industrielle que dénonce Karl Kraus, car il montre, il voit que cette liberté de l'industrie du spectacle et de l'industrie de la presse n'est pas du tout bonne pour la culture, ni pour la culture politique, ni pour la culture littéraire.
Entre la censure et le journal, je choisis la censure parce que la censure laisse la vérité intacte, tandis que le journal attente à la vérité. Et il attente à la langue. Alors attention, là, la moindre virgule, le moindre barbarisme, et aussitôt les foudres de Karl Kraus se déchaînent.
Ce que Karl Kraus déteste, c'est le fait que la presse a englouti la littérature. Que pour avoir une carrière littéraire, il faut être doué pour le feuilleton, pour la chronique brillante en première page du journal. Et cette contamination, cette hybridation journalisme-littérature pour Karl Kraus, c'est une vraie décadence.
C'est une contamination.
Une vraie contamination, une vraie peste.
Une corruption
qui d'ailleurs est aussi une corruption sonnante et trébuchante puisque ces chroniques sont très bien payées et que être chroniqueur souvent publié rapporte beaucoup plus que de publier des livres. Les deux choses qui rapportent dans le système culturel de l'époque, c'est le théâtre, parce qu'on touche des centièmes à chaque représentation, et c'est la presse. Tout le reste, c'est galère. Il n'y a que la presse qui rapporte.
On va l'entendre critiquer dans un lead la presse, mais j'aimerais que vous nous disiez un mot et de son apparence et de sa langue, parce qu'il tenait des réunions publiques que Canetti, jeune, a fréquenté, le futur prix Nobel. Il dit il y avait un charisme tel de Karl Kraus qu'il pouvait faire se plier les chaises. Alors, à force de quelle énergie et avec quelle langue?
Le jeune Karl Kraus adorait le théâtre. Il était un virtuose de la langue allemande. Je crois qu'au XXe siècle, il n'y a pas dans toute l'histoire de la littérature allemande un autre auteur pour parler et écrire l'allemand avec une telle virtuosité.
Intraduisible, du coup.
Intraduisible. Et en même temps, c'est une langue d'acteur, c'est une langue extrêmement plastique et visuelle, une langue en mouvement, une langue scénique. Karl Kraus était un acteur extrêmement doué.
Alors le voici le lead de la presse, vous me pardonnerez ma traduction grossière. La presse, dit-il, était au premier temps, et puis le monde est arrivé. Et quant à la presse, il fut venu, le monde s'en félicita. Et la presse, elle est formidable, parce que même ce qui n'arrive pas, nous pouvons le savoir, si au journal, cela convient, eh bien le journal le rapporte.
Im Anfang war die Presse, und dann erschien die Welt. Im eigenen Interesse hat sie sich uns gesellt. Nach unserer Vorbereitung sieht Gott, dass es gelingt. Und so die Welt zur Zeitung, man bringt!
Vienne, 1914, sur le ring, devant l'opéra.
De l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
La guerre de 14 dans les derniers jours de l'humanité de Karl Kraus, un spectacle de Jean-Marie Hummel et Liselotte Ham avec le TNS monté pour France Culture. Alors, les derniers jours de l'humanité et la guerre de 14, ça c'est peut-être le sommet de la réflexion de Karl Kraus.
Les derniers jours de l'humanité sont le chef-d'œuvre de Karl Kraus, un véritable monument de la littérature européenne, la pièce la plus violente, la plus intégralement tournée contre la guerre, absolument sans concession à aucune considération patriotique, diplomatique, politique, stratégique. Karl Kraus condamne en bloc ce qu'il considère comme le produit de la bêtise et de l'irresponsabilité des politiques, des diplomates et des élites en général. Il considère les populations comme des victimes qui se sont laissées entraîner comme droguées par la presse.
Mais attendez, dites-moi,
bourrage de crâne.
Oui, d'accord, je veux bien, mais vous racontez, Jacques Le Rider, dans votre censure à l'œuvre, Hermann, éditeur, que Die Fackel a continué à paraître au rythme que souhaitait Karl Kraus, et il n'a eu de difficulté vraiment qu'à partir de 1916, avec des blancs qui lui étaient imposés. Il a été rarement saisi, c'était peut-être pas aussi explosif dans ce qu'il écrivait pendant la guerre, puisque c'était pas repéré comme devant être interdit.
C'est-à-dire que les derniers jours de l'humanité sont en quelque sorte son œuvre secrète. Il commence les derniers jours de l'humanité en 1916. Son manuscrit grossit, mûrit et ne pourra être publié qu'à partir de novembre 1918. Ce qu'il publie dans Die Fackel, ce sont des articles qui condamnent justement la presse de guerre, les intellectuels compromis dans la propagande de guerre. C'est une critique de moraliste, une critique qui, au fond, est supportable pour la censure de guerre parce qu'elle ne met pas directement en cause l'état-major ou le gouvernement en place. C'est seulement à partir de 1917 que la censure commence à trouver Karl Kraus insupportable et dangereux, au moment où Karl Kraus devient de plus en plus explicitement pacifiste et où sa raillerie des responsables politiques et militaires devient trop transparente.
L'année d'avant, 1916, il avait moqué ce spectacle monté par des dragons impériaux survivants d'une bataille qui avait été invitée à se produire sur la scène du Burgtheater à Vienne, dans une pièce qui reconstituait le lieu des affrontements, avec des décorateurs qui essayaient d'imiter le champ de bataille. Et un peu plus tard, alors voici une publicité qu'il repère et qu'il ne reprend pas à son compte.
Schlachtfelder Rundfahrten im Auto, veranstaltet durch die Basler Nachrichten. Reklamefahrten vom 25. September bis 25. Oktober zum ermäßigten Preis von 117 Franken. Unvergessliche Eindrücke, keine Passformalitäten.
Circuit automobile des champs de bataille, organisé par le journal Die Basler Nachrichten. Voyage en promotion du 25 septembre au 25 octobre au prix réduit de 117 francs. Impression inoubliable. Pas de formalité de passeport. Inscription chez nous en remplissant un simple formulaire. À recommander particulièrement comme voyage d'automne. Est-ce que la mission de la presse, d'emmener d'abord l'humanité et ensuite les survivants sur les champs de bataille, ne trouve pas ici une forme exemplaire ? Vous recevez, le matin, votre journal. Vous apprenez qu'1,5 million de personnes ont dû verser leur sang, là où le vin et le café et tout le reste sont compris. Vous saisissez que la manifestation a eu lieu pour qu'au moins, quand rien n'est resté de la gloire que la faillite, un champ de bataille par excellence existe. Si vous n'avez pas encore compris qu'en naissant, vous étiez tombé dans un coupe-gorge et qu'une humanité qui, de surcroît, outrage le sang qu'elle a versé, n'est qu'un ramassis de canailles et qu'avec elle, il n'y a ni échappatoire ni remède, que le diable vous emporte alors vers un champ de bataille par excellence.
Nota bene, 2015, la mairie de Paris a privatisé les catacombes la nuit d'Halloween et le site d'hébergement Airbnb organise pour deux privilégiés qui auront gagné un concours une nuit dans les catacombes étanchées votre soif d'aventure dans ce dédale tentaculaire jonché de crânes et d'ossements. Mais revenons à l'Autriche d'après la Première Guerre mondiale, Jacques Le Rider. Il n'aime pas la démocratie, il n'aime pas le parlementarisme. À un moment, il va quand même accepter et la République autrichienne et la social-démocratie qui la gouverne.
C'est une métamorphose totale que traverse Karl Kraus entre 1914 et 1918. À l'été 14, au moment de l'attentat contre François Ferdinand, l'héritier du trône Habsbourg, Karl Kraus est plutôt un conservateur proche, disons, du camp clérical et aristocratique. En 1918, il s'est vraiment identifié à la social-démocratie, il appelle à voter. C'est la seule fois dans l'histoire de Die Fackel où il prend un engagement politique direct, la seule fois avant 1933-34.
Ça va pas durer néanmoins. Hein.
Mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas parce qu'il est immédiatement déçu par l'exercice du pouvoir de ses amis sociodémocrates.
Exemple, juillet 1927, dans une province d'Autriche, des miliciens fascistes tuent un vieillard et un enfant. Le tribunal local acquitte les meurtriers. La presse ne dit pas grand-chose, elle est beaucoup plus attentifs souvent la presse qu'en des dirigeants. D'entreprises sont agressées que quand ce sont de pauvres ouvriers comme dans cette province. Les ouvriers de Vienne, eux, spontanément, sans que le maire social-démocrate n'ait rien dit, vont mettre le feu au palais de justice et le préfet de police de la République, Stoppert, dit qu'il faut tirer et il y a 89 morts.
Je peux vraiment dire de moi que je fis toute ma vie rien que mon devoir, puisque cela et rien d'autre est mon devoir. Citation authentique du préfet de police Schober après le massacre du 15 juillet
1927. Ja, das ist meine Pflicht, bitte seht's denn das nicht? Das wär so eine Geschichte, hätt ich nicht meine Pflicht. Auf die Ordnung erwischt, bin ich treu meiner Pflicht. Wenn ein Umsturz in Sicht, ich erfüll meine Pflicht. Die Elemente vernicht ich bezüglich der Pflicht. Doch wenn einer einbricht, hätt ich auch eine Pflicht. Nur erwisch ich ihn nicht, wie es wär meine
Selon mon devoir, j'arrange tout à vouloir. De mes clients, la plupart, je dupe d'après le devoir. Sur ma mine, il faut croire, là est rien que devoir. Séduisant le seul regard, il ne parle que du devoir. Et mon cœur bat à l'égard seulement par le devoir. Mais procéder est un hasard, cela n'est pas mon devoir.
Alors la satire est efficace encore contre le préfet de police. Oui, mais quand vient Hitler, Jacques Le Rider, dernières années, dernier moment, dernier grand paradoxe. Là, Karl Kraus est un peu désarçonné par la violence, l'irrationalité de ce qui survient. Et surtout, ses lecteurs et ses auditeurs ne comprennent pas très bien où il est.
Karl Kraus a déjà eu, face à la Première Guerre mondiale, une période où il a gardé le silence, comme s'il titubait face à l'ampleur du désastre et s'il cherchait le registre adapté à la grande catastrophe qui se déroule. Et de même, en 1933, il prend conscience, lui qui est pourtant le plus grand satiriste de son temps, il prend conscience de l'impuissance du mot, de l'impuissance de l'écriture face à la barbarie, face à la violence pure, face au triomphe de la régression sur la culture. Et son silence est une sorte d'aveu de modestie aussi. Mais il n'est pas compris, car à l'époque, les antifascistes croient, les pauvres, que leur combat, y compris leur combat intellectuel, pourra peser sur les faits. Tout le monde sait, hélas, que face au nazisme, les intellectuels ont eu bien peu de marge de manœuvre. Et alors, Karl Kraus considère le régime autoritaire qu'on appelle austrofasciste de Dollfuss,
les chanceliers de l'époque, oui,
comme une sorte de moindre mal. Au moins, Dollfuss retarde l'Anschluss et protège ce qui reste de République d'Autriche contre l'annexion par le Troisième Reich, et il apporte son soutien à Dollfuss. Alors, ce silence, suivi d'une apologie de Dollfuss et d'attaques extrêmement violentes contre les sociodémocrates qu'il juge mal avisés dans leur combat antifasciste, font que Karl Kraus, qui avait galvanisé toute une génération, devient un incompris.
Mais vous savez, quand vient un danger extrême, il faut juger des forces politiques, il le fait ainsi pour le chancelier Dollfuss, uniquement en fonction de leur capacité à résister à ce danger. La censure à l'œuvre chez Hermann et puis sur notre site, toutes les œuvres disponibles en français de Karl Kraus. Merci à vous, Jacques Le Rider.